Monsieur Wallace Smith. Poursuivre la sainteté. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette fête de la Pentecôte, où que vous soyez. Nous préparons en ce moment un DVD pour ceux d'entre vous qui ne seront pas capables de venir à l'Assemblée, et il me fait plaisir de pouvoir ainsi m'adresser à vous maintenant. La Pentecôte est une fête exceptionnelle, et nous ne pensons pas toujours à tout l'impact qu'elle devrait avoir dans notre vie. J'espère que le sermon d'aujourd'hui vous aidera un peu en ce sens. Veuillez tout d'abord vous reporter à 1 Corinthiens chapitre 6, car j'aimerais commencer avec quelque chose que l'apôtre Paul a dit vers la fin de ce chapitre. Nous débuterons au verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons maintenant à Dieu. Nous sommes à lui, corps et âme. Quand Dieu prend possession de quelque chose, cela revêt un sens profond. Cela signifie que nous sommes mis à part, que nous sommes sanctifiés. Par la mort de Jésus-Christ, il a pris possession de nous, et il a placé son Saint-Esprit en nous, qui avons décidé de nous soumettre totalement à lui. Cela est symbolisé par les eaux du baptême, lorsque nous avons obtenu la rémission de nos péchés, et par l'imposition des mains, lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous a été conféré. Nous sommes ainsi sanctifiés. Nous sommes mis à part, et la Pentecôte est le jour idéal pour y penser. Qu'est-ce que cela signifie, être saint, être sanctifié? Cela signifie être mis à part, être placé dans un espace exclusif à Dieu. Il ne s'agit pas nécessairement d'un espace physique, ici ou au ciel, mais plutôt d'un état de sainteté. Nous devons à présent nous consacrer à l'atteinte des buts qu'il nous fixe et des désirs qu'il entretient à notre égard. Il nous faut maintenant vivre selon le plan de Dieu, accomplir ce qu'il a en vue pour nous et en nous. Tout cela définit ce qu'est la sainteté. Il nous faut permettre à Dieu de prendre pleinement possession de nous et le laisser accomplir en nous tous les desseins qu'il aura projetés à notre égard. Le concept de sainteté est un concept central de la Bible, et elle en parle abondamment. Il doit donc être au cœur de notre cheminement chrétien. Nous ne pourrons pas en examiner toutes les facettes aujourd'hui, mais la Pentecôte est certainement le jour indiqué pour méditer sur ce thème. En guise d'entrée en matière, tournons-nous vers 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, en fait nous parlerons de ces promesses un peu plus tard, si nous en avons le temps, mais d'emblée, disons qu'il est ici question de devenir enfant de Dieu et de toutes ces promesses qui nous sont faites. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà la tâche qui nous est confiée présentement. Achever notre sanctification. Cela devrait nous tenir à cœur, car nous savons que Dieu est saint, et cet attribut qui lui est propre, à lui et à son Fils Jésus-Christ, nous devons l'émuler. Nous devons nous en rapprocher de plus en plus. Cela devrait nous motiver durant le reste de notre vie. Voilà de quoi je veux parler aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Et vous savez, Dieu nous a donné l'outil indispensable pour achever notre sanctification. Et cet outil, c'est son Esprit Saint. Que cela nous encourage et nous réjouisse. Donc, encore une fois, je voudrais aujourd'hui parler de toute l'importance qu'il nous faut placer dans la poursuite de notre sanctification. Ce sera notre thème central. Le titre de mon sermon est La poursuite de la sainteté. Pour débuter, penchons-nous sur la nation d'Israël d'antan. L'ancien Israël se trouvait dans une situation un peu spéciale. La nation se devait de poursuivre la sainteté, mais cela avec les moyens dont elle disposait à l'époque. C'est que, contrairement à nous, le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas été répandu sur elle. Il l'est sur nous à présent. Et c'est ce que le jour de la Pentecôte doit nous rappeler. L'ancien Israël ne pouvait aspirer qu'à une sorte de sainteté basée sur des rituels. Il se démarquait cependant par rapport à tous les peuples de la terre, par le fait que Dieu vivait au milieu d'eux. Effectivement, ils avaient un Dieu saint parmi eux, et cela changeait tout. Aborder ce vaste sujet dépasserait de loin le cadre de ce sermon. Et c'est pourquoi je vous encourage à poursuivre cette étude par vous-même ultérieurement. Nous allons seulement nous pencher sur certains exemples. Pour ma part, lorsque je vois dans Lévitique tout ce qu'Israël devait faire, tous ces menus détails qu'il devait considérer, du fait de la présence d'un Dieu saint parmi eux, cela rappelle à mon souvenir de vagues détails que j'avais lus au début de mes études universitaires. J'avoue que c'est maintenant plutôt flou dans ma tête, mais tout de même, tous ces rituels astreignants dont il est fait mention dans Lévitique me font penser à un manuel d'opération utilisé dans une centrale nucléaire. Il est vrai que je n'ai pas lu beaucoup de manuels destinés au personnel qui doit opérer une centrale nucléaire. Mais je suis néanmoins un peu familier avec toutes ces procédures de sécurité qu'ils doivent observer. Ainsi, selon l'environnement radiologique auquel le personnel pourrait être soumis, il leur faudra porter une combinaison convenable, ayant une certaine épaisseur et faite d'un matériau approprié. De plus, chaque personne devra porter des films et des dosimètres qui permettront de mesurer la dose radioactive qu'elle aura reçue. Inutile de préciser que dans certains environnements, on devra en plus réglementer strictement le temps durant lequel le personnel pourra travailler à une tâche particulière. L'idée est de ne pas dépasser la dose maximale permise. Cela dit, vous n'êtes peut-être jamais allé dans une centrale nucléaire, mais votre dentiste a peut-être passé vos dents au rayon X. La première fois que cela m'est arrivé, j'étais encore bien jeune, mais je me souviens que cela m'avait un peu effrayé. L'assistante du dentiste m'avait placé un film dans la bouche, puis elle avait approché l'appareil à rayon X de ma tête pour pouvoir prendre une radio. Pendant la prise de la photo, je portais un tablier spécial autour de la poitrine, tandis que l'assistante actionnait la machine du dehors, car elle-même ne restait pas dans la salle. Certains vont me critiquer pour avoir accepté une radio, mais personnellement, je ne crois pas qu'une telle procédure soit si dommageable. Sauf pour l'assistante qui doit procéder à de multiples opérations de ce genre chaque jour. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle sort de la salle pendant la prise de la photo. Tout cela pour dire que ces rayonnements doivent être manipulés avec prudence, car ils sont puissants, et on doit s'adapter à eux. Cela étant dit, lorsqu'on lit dans Lévitique à propos de toutes ces directives imposées à ceux qui faisaient le service du temple, on ne peut s'empêcher de ressentir qu'on est là encore en présence d'une puissance impressionnante dont il faut tenir compte et à laquelle il faut s'adapter, la puissance du Dieu saint. Voyons quelques exemples. Notez les sacrifices d'Israël qui seront agréés par Dieu et ceux qui ne le seront pas. Lévitique, chapitre 22, verset 17. Lévitique, chapitre 22, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: Tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau, ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Tout sacrifice devait être digne d'un Dieu saint. Un sacrifice ne répondant pas aux normes fixées ne serait pas accepté. La Bible le dit clairement, comme nous le verrons plus tard. Et dans certains cas, des vies pouvaient même être en jeu en cas de non-respect. Allons brièvement à Malachie chapitre 1. Un des reproches que Dieu avait adressé à Israël, c'était précisément leur laxisme dans ce domaine. Malachie 1, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant, « La table de l'Éternel est méprisable. » Verset 8. « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. » Comprenez bien que Dieu n'a rien contre les aveugles ou les boiteux. De fait, dans les Écritures, Dieu dit qu'il aime ceux qui ont de tels défis à relever et il a hâte d'introduire un monde où de tels défis n'existeront plus et où ceux qui en sont affligés présentement en seront délivrés. Mais, dans l'Ancien Testament, il préparait des leçons pour eux et simultanément pour nous. Des leçons que nous étudierons un peu plus en détail tout à l'heure. Il avait dit « Offre-la donc à ton gouverneur. Penses-tu que ton gouverneur acceptera la bête la plus chétive et la plus malingre de ton troupeau, une bête à laquelle tu ne tenais pas, et que tu lui as donc offerte en sacrifice ? Tu ne me feras pas cet affront. Tu n'oseras tout de même pas m'offrir un tel sacrifice. À moi, un Dieu saint. » Poursuivons au verset 13. Vous dites, « Quelle fatigue !» Et vous le déliniez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains ? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il y a certaines choses qu'il nous faut avoir présentes à l'esprit, notamment que Dieu n'est pas un personnage narcissique qui tient toujours à tirer la couverture de son côté. Il n'est pas imbu de sa propre importance. Il n'étouffe pas dans son ego. Au contraire, son intérêt se porte avant tout sur nous. Je parlais justement avec M. Robinson ce matin et lui disais que nous avons souvent tendance à devenir semblables à ceux qui sont dans notre ligne de mire. C'est aussi pourquoi Dieu s'efforce de concentrer l'attention de l'ancien Israël sur ce qu'il est, lui, non pas pour son propre avantage, mais pour le nôtre. Il essaie de leur faire comprendre qu'il n'en veut pas à ceux qui n'ont pas mieux à offrir, mais qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont. Son courroux se dirige plutôt sur ceux qui ont exactement l'offrande qui convient à un Dieu saint, mais qui vont se contenter de lui offrir une bête chétive, boiteuse ou infirme. Telle était la loi pour les sacrifices. Ceci devait être digne d'un Dieu saint comme l'Éternel. Cela dit, il ne faut pas se leurrer. Rien de ce que nous pourrions offrir à Dieu ne saurait vraiment être digne de Dieu. mais il nous faut faire un effort pour que notre sacrifice reflète une réelle valeur et corresponde à ce que nous avons de mieux à lui offrir. Voyons maintenant un autre élément de sainteté dont Dieu parle dans l'Ancien Testament. Parlons de pureté. Revenons à Lévitique chapitre 22. Je veux ici aborder le sujet de la pureté par opposition à l'impureté. Lévitique chapitre 22, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race, qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. » Notez comment il revient constamment sur ce point. Un des meilleurs sermons qu'il m'a été donné d'entendre à propos de cet énoncé « Je suis l'Éternel » fut celui que M. Weston donna à Kansas City. Pourquoi une telle insistance sur ce point? C'est plus profond qu'il n'y paraît à première vue, et je n'aurai pas le temps de trop m'y attarder. Mais Dieu cherche ici à leur faire comprendre qui il est, car, à défaut de bien le comprendre, nous ne saurions pas qui nous devons émuler. Voilà pourquoi il répète fréquemment « Je suis l'Éternel ». Puis au verset 4, « Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou d'un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. » D'autres détails sont encore évoqués, tels que le comportement envers des animaux morts. Mais passons à un autre sujet. Voyons par exemple ce qu'il leur dit à propos de leur consommation d'animaux offerts en sacrifice. À savoir que ceux qui consommeront des choses saintes devront eux-mêmes être sanctifiés. Il énumère ensuite les situations qui pourraient les rendre impurs. Parmi celles-ci, il y aurait le fait d'avoir été en contact avec quelque chose d'impur. Il y a ici une leçon que tout peuple saint doit apprendre, et nous voyons que la nation d'Israël en fut profondément marquée. Cette leçon a certainement conditionné leur pratique et retenu leur attention. La leçon, c'est que l'impureté se propage. Oui, elle se répand. C'est un point qui est bien souligné dans le livre du prophète Haggai. En fait, je devrais dire que c'est Dieu qui pousse Haggai à insister sur ce point. Haggai chapitre 2, verset 11. Haggai chapitre 2, verset 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Verset 12. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Comprenez bien où il veut en venir. Lorsque le sacrificateur porte quelque chose de consacré dans le pan de son vêtement, le fait que cette chose touche à un quelconque objet ne fera pas soudainement de cet objet un objet consacré ou sanctifié. C'est ce que dit la loi, comme les sacrificateurs vont le reconnaître sans difficulté. Et c'est là le point que je cherche à souligner. Et j'avoue que j'aime ce passage des Écritures. Mais voyons l'inverse. Verset 13. Et Haggai dit, Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Ils avaient compris la leçon, à savoir que la sainteté ne se propage pas à la suite d'un accident, au contraire de l'impureté, qui, elle, peut être transmise par accident et ainsi contaminer ou rendre impur un objet consacré. Les jours des pains sans levain sont passés à présent, mais vous vous souvenez sûrement d'avoir entendu cette expression « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Autrement dit, il se propage rapidement à travers toute la pâte. Il en est de même de l'impureté. Elle aussi se répand rapidement pour contaminer et rendre impur tout ce qui entrera en contact avec elle. Cela fait partie de sa nature. Ainsi, ce qui est saint ne transmet pas sa sainteté à ce qui ne l'est pas, mais, à l'inverse, ce qui est impur va répandre son impureté à ce qui est saint. Portons maintenant notre attention sur un autre aspect de la sainteté, tel que décrit dans l'Ancien Testament, et cela en rapport avec la nourriture. Rendons-nous pour cela dans Lévitique chapitre 11. Oh, je viens de manquer une bonne occasion de faire passer un test à nos jeunes. J'aurais dû leur demander où se trouve le chapitre de la Bible qui parle des animaux purs et impurs. Mais voilà, je l'ai déjà mentionné. Par contre, il y en a un autre où il en est également question. Alors laissons-leur le soin de le trouver. Voyons donc Lévitique chapitre 11, où nous trouvons une liste particulièrement détaillée d'animaux purs et impurs. Encore une fois, ce n'est pas le seul endroit où la Bible en parle, mais ici, c'est notre meilleure référence. Je ne vais pas lire tout le chapitre avec vous, mais notez comment il se termine au verset 44. Lévitique 11, verset 44. « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Ce n'était pas seulement une question de santé ou de simple obéissance à Dieu. C'était aussi parce que la nation d'Israël se trouvait à vivre en présence de ce Dieu saint et qu'il lui fallait, de ce fait, veiller à ne pas se souiller et à ne pas se rendre impur, ni physiquement, ni spirituellement, par le fait de convoiter ces choses, ni même cérémoniellement. C'est que, selon les lois cérémonielles prescrites dans l'Ancien Testament, tout cela pouvait couper leur contact avec Dieu. Dieu avait dit, « Vous serez saints, car je suis saint. Consacrez-vous à mon service et veillez à ce que rien, pas même votre nourriture, n'en vienne à vous rendre impur. » Il y a tant d'exemples que nous pourrions considérer, mais le temps nous manque pour nous pencher sur eux tous. Par exemple, il y a aussi la dîme qui est sainte, cette dîme que nous consacrons à l'Éternel qui la requiert de nous. Oui, elle aussi est sainte. Son usage n'est pas pour nous. Vérifiez-le dans Lévitique 27. Ne vous contentez pas de le croire parce que je vous le dis. Et puis, il y a le sabbat, qui doit être considéré comme une période de temps sainte consacrée à Dieu. Il en est question notamment dans Exode chapitre 20. Oui, le sabbat est cette période de temps que nous devons mettre à part. C'est le septième jour de la semaine. Il ne nous appartient pas de décider ce que nous ferons de ce jour. Il faut plutôt se demander ce que Dieu veut que nous fassions de ce jour, un jour qui est saint à ses yeux, un jour qui doit lui être entièrement consacré. La Bible parle du châtiment que Dieu infligea à ceux qui l'avaient traité avec désinvolture, à ceux qui le considéraient comme n'étant, après tout, qu'un jour comme les six autres jours de la semaine. Non, le sabbat doit être traité comme un jour saint, car Dieu le considère en tant que tel. Il nous faut donc le consacrer à l'Éternel et nous abstenir de tout ce qui pourrait le polluer. À ceux qui voudraient savoir si, à nos yeux, les autres jours de la semaine ne sont pas saints, eux aussi, je réponds que, dans une certaine mesure, ils le sont effectivement. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais d'ores et déjà, disons que pour nous, tous les jours sont saints, en ce sens que nous nous efforçons de ne pas pécher en aucun d'eux. Il n'empêche qu'il y a un jour choisi par Dieu, le septième jour de la semaine. Et, de ce fait, ce jour revêt donc un caractère que les autres n'ont pas. Si nous refusons de lui accorder ce statut, il y aura des conséquences pour notre vie. C'est Dieu qui sanctifie ce jour, et cela pour notre bien. N'oublions pas les conséquences tragiques qui en résultèrent pour les Israélites d'antan lorsqu'ils refusèrent de sanctifier le sabbat. Combien payèrent de leur vie leur rébellion. Le fait est que Dieu est saint. L'Ancien Testament en rend témoignage. Dieu se distingue par son caractère sacré. Il est au-dessus de tout, il est saint, il est à part. Pour en revenir au pouvoir de l'atome que nous avons évoqué précédemment, une des raisons pour lesquelles on doit se conformer à toutes ces mesures de protection lorsqu'on travaille dans un centre nucléaire, comme porter des combinaisons appropriées, respecter les limites de temps d'exposition à la radiation, se maintenir à une certaine distance des sources radioactives, c'est parce que nous avons là affaire à quelque chose de puissant. Certains se souviendront sûrement de ce tsunami qui eut lieu au Japon en 2011, lui-même ayant été déclenché par un tremblement de terre. Eh bien, tout cela causa un dommage irréparable à la centrale nucléaire de l'endroit. Je veux bien sûr parler de la centrale de Fukushima, qui a beaucoup fait parler d'elle par la suite. Suite à une série d'événements incontrôlables, plusieurs réacteurs étaient entrés en divergence, et il s'ensuivit une fusion de leur cœur, ainsi qu'un énorme dégagement de chaleur, le tout accompagné par d'importantes fuites de radioactivité dans l'environnement. Il est impératif que tous les processus qui se déroulent dans une telle centrale soient minutieusement contrôlés à tout moment, sans quoi il n'est plus possible de maîtriser la situation tant les énergies dégagées en cas de malfonctionnement sont énormes. Et il ne faut pas non plus oublier que, dans l'éventualité d'une fusion du cœur d'un tel réacteur, il s'ensuivra immanquablement une fuite de matière radioactive dans l'environnement, et c'est bien hélas ce qui eut lieu à Fukushima. Cette contamination radioactive fut clairement enregistrée aussi loin que sur les côtes américaines, sans compter tout l'impact qui en résulta sur les poissons de la mer et tout le reste. On ne joue pas avec la puissance de l'atome. On peut, tout au plus, apprendre à s'adapter à cette puissance. Voilà donc une autre leçon que l'Ancien Testament nous enseigne à propos de la sainteté. Dieu ne s'adaptera pas à nous, c'est à nous de nous adapter à lui. Toujours dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est dans Lévitique chapitre 10 que se trouvent d'importantes leçons en ce qui concerne le culte que nous devons rendre à Dieu, selon ce que lui-même a établi. Pour ma part, j'y vois une leçon importante pour nous guider dans nos rapports avec un Dieu saint parmi nous. Pour mieux comprendre Lévitique 10, il nous faut d'abord comprendre Lévitique 9. Là, il est question de la consécration d'Aaron et de sa famille. C'est très impressionnant. Pour ceux de la famille d'Aaron, ils faisaient partie de la lignée des sacrificateurs. En tant que sacrificateur, vous étiez vraiment mis à part. Il est possible que chez certains, cela leur montait à la tête. Cette position privilégiée, qui leur permettait de s'approcher de Dieu en leur qualité de représentants du peuple, représentait cependant une lourde responsabilité. Le sacrificateur devait s'adapter à Dieu. On y reviendra un peu à la fin. Lévitique chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Il me faut m'assurer que vous comprenez bien ce que cela signifie, du feu étranger. Cela n'évoque rien de péjoratif ou d'offensant à première vue. Ce feu ne provient pas d'une source qui choquerait ceux qui en seraient informés. Dans la Bible anglaise utilisée par M. Smith, il est question d'un feu profane. Le dictionnaire appelle « profane » ce qui n'est pas sacré, mais, bibliquement parlant, ce qui est profane n'en constitue pas moins une offense aux yeux de Dieu. Ce feu que Nadab et Abihu avaient introduit en présence de Dieu était donc une offense à ses yeux. On peut alors se demander ce qui en faisait une offense. La Bible dit qu'ils avaient agi d'une façon qui n'était pas conforme à ce qui leur avait été ordonné. Cela peut donner naissance à toutes sortes de spéculations. De fait, je connais beaucoup de bons prédicateurs dans l'Église qui ont des opinions bien arrêtées sur le sujet, mais je vais m'en tenir à quelques généralités. Ainsi, qu'est-ce qui aurait pu qualifier ce feu de profane? Était-ce parce qu'il leur a été offert au mauvais moment? Était-ce parce qu'ils auraient pris la liberté de changer la composition du parfum que Dieu avait prescrit pour la circonstance, sous prétexte que le leur avait une odeur plus agréable, une odeur qui plairait davantage aux gens? Une chose est certaine, ils n'avaient pas suivi les directives de Dieu. Peut-être qu'ils avaient simplement fait preuve de négligence. Peut-être que leur intention avait vraiment été de faire la volonté de Dieu, mais que, chemin faisant, ils avaient ajouté des ingrédients sans s'en rendre compte. N'empêche que la réponse de Dieu fut immédiate et sans appel. Quand Dieu voudra nous inculquer certains points importants, il va souvent recourir à des mesures extrêmes au début de notre apprentissage. Pensez par exemple à ce qui est arrivé à ce couple qui avait menti à l'apôtre Paul dans le livre des Actes, et comment Dieu les fit mourir sur le champ. Vous savez, si chaque fois qu'un individu mentirait à un dirigeant de l'Église, Dieu le faisait mourir sur le champ, nous ne serions plus qu'un bien petit nombre sur la terre. Dieu a coutume d'intervenir de façon magistrale au début d'un processus. Et c'est ainsi qu'il a procédé au moment de l'investiture de la famille d'Aaron dans son ministère, lorsqu'il a agi d'une manière aussi dramatique. Notez ce qui arriva. Lévitique 10, verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. L'effet fut instantané, foudroyant. Ils s'apprêtaient à introduire du feu profane, et voilà que Dieu les frappe d'un feu miraculeux qui les consume sur le champ. Et pourquoi? Verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approcheront de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. On n'a pas à se perdre en conjectures à propos de ce qui avait été leur erreur. Le fait est qu'ils n'avaient pas sanctifié Dieu en présence du peuple. C'est pourquoi Aaron se tut, n'ayant rien à redire. Car il était conscient du fait que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent absolument le sanctifier. C'est là une leçon de base qui se dégage de l'Ancien Testament. Pour en revenir à l'attitude qu'on doit adopter vis-à-vis de la puissance de l'atome, on ne peut se permettre aucun compromis. Il faudra s'adapter à elle, car elle ne nous fera pas de concession. Ainsi, en ce qui concerne la sainteté de Dieu, il ne va pas la réduire pour nous faciliter les choses. C'est à nous de nous adapter à lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, la parole de Dieu nous dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, que toutes ces choses leur sont arrivées et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il nous faut donc profiter de ces leçons que la Bible nous enseigne. Il nous faut suivre les directives que Dieu nous y donne et éviter d'introduire des éléments de notre propre cru, à l'instar des fils d'Aaron qui payèrent de leur vie leur comportement désinvolte. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. Qu'est-ce que ce jour doit nous enseigner? Il y a quelque temps, nous observions la Pâque. La Pâque nous rappelle le sacrifice de Christ, sacrifice par lequel nous obtenons la rémission de nos péchés commis antérieurement. Ayant ainsi été purifiés, nous sommes alors devenus des vases d'honneur. Puis nous avons observé les jours des pains sans levain, qui symbolisent notre réponse rationnelle et nécessaire au sacrifice de Christ. Une réponse qui doit se traduire par un effort de notre part pour nous éloigner du péché et nous rapprocher de la perfection de Dieu. C'est cela, faire preuve de repentance. Autrement dit, comment réagissons-nous face au sacrifice de Christ à notre égard? Nous nous détournons du péché et nous efforçons de nous rapprocher de Dieu. Le monde de la chrétienté traditionnelle, n'observant pas les pains sans levain, a perdu de vue cette responsabilité essentielle qui nous incombe. Ses adeptes pensent qu'ils répondent proprement au sacrifice de Christ par le simple fait de croire en lui, mais ils omettent de s'informer de ce que Dieu attend d'eux à présent. Nous qui connaissons la volonté de Dieu en la matière, ne serions pas bien équipés pour passer à l'action si nous ne disposions pas de cette aide spéciale qui nous vient du Saint-Esprit. En effet, sans lui, il nous serait impossible de changer notre ancienne façon de vivre. Rien de nouveau sous le soleil. Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il attendait de ceux qui étaient de son peuple jadis qu'ils soient saints, et c'est aussi ce qu'il attend de nous qui sommes parvenus à la fin de l'âge. Il nous faut bien le comprendre. Tournons-nous à présent vers Matthieu, le chapitre 5. Comment débutons-nous dans notre vie nouvelle? Je me souviens de ce qui arriva lorsque je fus baptisé. Oui, l'esprit est voulant, mais la chair est faible, n'est-ce pas? Je m'étais repenti, je voulais me tourner vers Dieu et changer mes voies, mais j'étais encore un être bien charnel. Je suppose que c'est là ce qu'ont ressenti nombre d'entre vous. Pour ma part, je suis conscient du fait qu'il me faut continuer à croître et que je suis loin d'être parfait. Je crois que j'ai progressé dans la bonne voie depuis plus de 20 ans que je m'efforce de le faire. Mais ce n'est pas à moi de m'enorgueillir de ces progrès accomplis. Tout le crédit en revient à Jésus-Christ, qui vit en moi par le Saint-Esprit, et je lui demande de m'aider à travailler sur ce qu'il reste à accomplir. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Maintenant, si nous projetons les regards vers le futur, nous apercevons la fête des trompettes, laquelle symbolise l'époque où tout ce travail sera amené à la perfection. Pour lors, nous sommes dans une phase de transition. Nous continuons d'apprendre à nous perfectionner. Le message de Christ à notre égard ne change pas. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Trouvez-vous cela intimidant? Le fait de devoir être parfait comme l'est notre Père dans les cieux? Selon moi, cela devrait l'être, effectivement. Le mieux qu'on puisse dire, c'est que l'Éternel ne change pas d'approche. Qu'avait-il dit à Abraham? Si on se rend au livre de la Genèse, on le voit qui lui dit « Marche devant ma face et sois intègre ». On voit donc que Dieu ne nous demande rien de plus que ce qu'il avait jadis demandé au Père des croyants, Abraham. Cela dit, nous avons fort heureusement accès au pardon de nos péchés grâce au sacrifice rédemptionnel de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous trébuchons et que nous nous repentons, le sacrifice de Christ nous accorde le pardon de Dieu. Comprenez bien que même si nous nous relevons alors et que nous nous remettons à marcher, nous ne serons pas exempts de rechutes de temps à autre. Évidemment, il y en a qui se plaisent à répandre des mensonges à ce sujet, disant « La raison pour laquelle Christ nous enjoint d'être parfaits, c'est parce qu'il veut nous convaincre que nous ne pouvons être parfaits. Alors, pourquoi même essayer ?» Frères et sœurs, cela est un mensonge qui émane de Satan. Matthieu 5, verset 48, se trouve à la fin d'un chapitre où il n'est question que de choses positives à accomplir. On n'y parle pas de choses négatives. On n'y parle pas de licence pour commettre le péché. Un chrétien digne de ce nom peut-il en toute sincérité nier que Matthieu 5, verset 48, est un verset d'action, un verset qui nous lance le défi de passer à l'action et de faire de bons choix? Ceux qui veulent que nous baissions les bras sont influencés par Satan et séduits par le mensonge qu'il répand. Lorsque ce verset nous commande d'être parfaits, cela veut dire qu'il nous faut nous efforcer de devenir parfaits, et cela fait partie du message de la Pentecôte. On nous y encourage en faisant valoir le point que nous ne serons pas abandonnés à nous-mêmes dans notre lutte pour atteindre la perfection, car Dieu sera avec nous. Il sera en fait en nous. Et vous savez, les exemples contenus dans l'Ancien Testament nous sont utiles, car ils nous enseignent des leçons à nous qui vivons en ces temps de la fin. Souvenez-vous de ces sacrifices qu'on devait offrir à Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Souvenez-vous qu'on ne devait pas lui offrir ce qui était chétif, boiteux ou aveugle. Eh bien, si nous nous tournons vers Romains, chapitre 12, que lisons-nous ? Au verset 1, Romains, chapitre 12, et le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ces paroles nous viennent de l'apôtre Paul. Paul nous y rapporte des paroles issues en droite ligne du Lévitique, un livre qu'il connaissait probablement par cœur. Ce qu'il nous dit en essence, c'est qu'il nous faut en quelque sorte offrir notre vie à Dieu, comme si nous étions un de ces sacrifices qui étaient jadis offerts sur l'autel et dont on attendait qu'ils soient agréables à Dieu. Et Paul savait ce qui était attendu de tels sacrifices, à savoir qu'ils devaient être sans défaut, c'est-à-dire sans déformation. sans tache, sans altération et sans maladie. Quand il parle de nous, il faut comprendre qu'il veut alors parler de notre condition spirituelle et non de notre condition physique. Après tout, tout le monde sait que l'apôtre Paul était lui-même affligé de quelques problèmes d'ordre physique. Non, en ce qui nous concerne, il veut parler de notre attitude, de notre effort pour extirper le péché de notre vie. Quelle est notre performance dans ce domaine? Notre effort paraît-il louable aux yeux de Dieu? N'oublions pas que Dieu est saint et parfait et que nous devons émuler notre Créateur. Ce qui est beau dans toutes ces fêtes de Dieu, c'est qu'elle nous enseigne que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes dans notre lutte pour atteindre la perfection, mais que Dieu est à nos côtés dans toutes les étapes de notre cheminement chrétien. On ne s'y reportera pas par manque de temps, mais laissez-moi quand même le mentionner en passant. Quelle fonction Jésus-Christ exerce-t-il en nous à l'époque présente? Que fait-il actuellement pour l'ensemble de l'Église, sa fiancée, qu'il a l'intention d'épouser lorsqu'il reviendra? Il en est question dans Éphésiens chapitre 5. Eh bien, il fait tout pour qu'elle puisse alors se présenter devant lui en tant que cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous pourrez le lire dans Éphésiens 5, verset 27, et je vous encourage même à lire l'ensemble de ce chapitre. Nous avons donc accès à la grâce de Dieu par le sacrifice que notre futur époux a consenti à notre égard. Mais en plus de cela, nous l'avons qui agit présentement en chacun de nous. Nous l'avons qui pétrit l'argile que nous sommes, travaillant dans notre esprit et dans nos cœurs. Il ne suffit donc pas que nous acceptions tout simplement sa grâce. Encore nous faut-il accepter de le laisser accomplir en nous ces transformations qui feront que sa fiancée devienne en fin de compte cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voyons à présent ces leçons qui définissent ce qui est impur. Quel doit être notre comportement vis-à-vis de ce qui est impur? Et comment pouvons-nous rester à l'écart de l'impureté? Tournons-nous pour cela vers 2 Corinthiens chapitre 6, où nous débuterons au verset 14. L'apôtre Paul y dit, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Verset 15. « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il fait ici allusion à ces circonstances dans lesquelles vivait Israël, circonstances qui affectaient tous les aspects de leur vie, ce qu'ils touchaient ou ne touchaient pas, ce qu'ils mangeaient ou ne mangeaient pas. De fait, je n'avais pas prévu de parler de cela, car c'est un peu gênant, mais si vous lisez le Deutéronome, on y parle même de ce qu'ils devaient faire pour disposer de leurs excréments. C'est que, voyez-vous, ils ne devaient jamais perdre de vue que Dieu était parmi eux dans le camp. Or, Dieu étant saint, ils devaient respecter certaines règles de conduite. Ils ne pouvaient donc pas faire n'importe quoi, n'importe où. Du fait de sa présence au milieu d'eux, des règles précises géraient donc tous les aspects de leur vie. Par analogie, cette leçon s'applique aussi à nous. Dieu nous dit alors, « Comme je veux habiter au milieu de vous, il vous faut donc être un peuple saint. » Verset 17, 2 Corinthiens 6, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Voyez-vous, si nous tenons réellement à ce qu'il nous considère en tant que ses fils et ses filles, nous qui vivons dans ce monde, il nous faudra attacher de l'importance à tous ces détails. Il nous dit en essence, « Si vous tenez à moi, purifiez vos voies, purifiez vos vies, Soyez purs à mes yeux, prenez tout cela au sérieux. Il est intéressant de noter que Pierre parle de nous en tant que pierre vivante. Or, le verset 16 que nous venons de lire mentionnait justement que nous sommes le temple du Dieu vivant. Voici un autre point qu'il nous faut considérer, à savoir que Dieu est saint et que nous sommes son temple. Lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament et qu'on remarque tout ce que Dieu a fait pour purifier le temple, pour qu'il puisse être qualifié de saint, qu'est-ce que cela doit nous enseigner à nous qui devrions nous considérer comme constituant ce temple? Acceptons-nous l'idée que nous faisons partie du temple de Dieu? Lorsque vous lisez ce qui est dit à propos des étapes qui conduisirent jadis à son édification matérielle, c'est tout simplement remarquable. Je ne prendrai pas le temps d'en parler en détail, mais sachez que chacune des pierres extraites de la carrière avait été façonnée et polie sur place avec une telle précision que lorsque ces pierres arrivèrent à l'endroit où le temple allait être édifié, elles s'imbriquaient parfaitement l'une dans l'autre. On n'y entendait donc aucun martèlement, aucun bruit de scie. Si nous nous tournons à présent vers 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que lisons-nous? 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ici, il parle de nous comme étant le temple de Dieu et, simultanément, de notre devoir d'éviter de nous rendre impurs. Quelle leçon avons-nous apprise précédemment? La leçon que l'impureté se répand. En tant que peuple saint, si nous entrons en contact avec quelque chose d'impur, que va-t-il se passer? Je ne parle pas ici du fait de toucher un sandwich au jambon, mais de ces choses qui pourraient nous polluer spirituellement. Je veux parler des films que nous allons visionner ou de la musique que nous allons écouter. Je veux parler des propos indécents qui pourraient sortir de notre bouche, des sites internet que nous visiterions ou des gens avec lesquels nous allons nous associer. Les leçons que l'Ancien Testament nous enseigne à ce sujet sont claires. Comment allons-nous nous comporter, nous qui sommes des pierres vivantes dans le temple de Dieu? Allons-nous être une belle pierre blanche immaculée, ou, au contraire, allons-nous montrer des traces de champignons et de moisissures? Parce que, nous le savons, l'impureté, ça se répand. Un beau jour, c'était au début de ma conversion, et je devais avoir 19 ou 20 ans, je me trouvais à la maison car les vacances estivales venaient de commencer. Je ne voudrais pas dénigrer ma famille. Je les aime bien, même si aucun d'eux n'est dans l'église. Mais ce jour-là, ils regardaient un spectacle à la télévision qui était, disons, un peu frivole, peut-être même un peu osé. Je me souviens que nous regardions alors une sorte de comédie et, comme eux, j'étais pâmé de rire. Ce que ce comédien disait avait un tel effet sur moi que je ne pouvais m'empêcher de rire aux éclats. Sincèrement, je trouvais ça drôle. Toujours est-il qu'à un moment donné, je me ressaisis et me mis à penser que je m'étais laissé entraîner par une situation qui ne convenait pas vraiment à quelqu'un qui voulait passer pour un saint, un membre potentiel de la famille de Dieu. L'impureté s'était infiltrée en moi et je dus reconnaître à quel point j'étais encore vulnérable. C'est que, voyez-vous, lorsqu'on prend le chemin de la repentance, il ne faut pas s'imaginer que d'un coup de baguette magique, toutes nos mauvaises habitudes d'antan vont nous abandonner du jour au lendemain. Loin de là. Peut-être que pour vous, cela s'est produit pour certaines mauvaises habitudes pour lesquelles à présent vous éprouverez une soudaine aversion et refuserez de vous laisser piéger. Mais en ce qui me concerne, cette fois-là, je dois avouer que j'étais tombé dans le panneau et trouvais cela drôle. Cela dit, et je pense que l'Esprit de Dieu m'influençait en cela, alors même que je continuais à trouver ça drôle, je me mis à penser que Dieu ne le trouvait peut-être pas drôle, lui, et qu'à ses yeux, ce spectacle représentait en fait un affront à sa création, et qu'il tendait à éloigner l'humanité de plus en plus de lui, au lieu de l'en rapprocher. Vous savez, il ne faut pas croire que Dieu ne peut apprécier des manifestations d'humour. Si vous lisez certains versets, ils peuvent vous paraître bien drôles, mais ce ne sera pas le genre d'humour qui est si commun dans le monde, un humour à double sens et venant d'un esprit impur. Même si je n'avais alors que 19 ou 20 ans, je devins conscient qu'il me fallait me soustraire à cette mauvaise influence si je voulais être cette pierre vivante dans le saint temple de Dieu. Je n'ai pas eu pour cela à m'enfuir de la maison, car j'avais un endroit où je pouvais me retirer. Au besoin, j'aurais toujours pu sortir pour aller manger une bouchée dans un restaurant proche de chez nous. Une chose m'apparaissait essentielle cependant, à savoir qu'il fallait que je m'éloigne de cette télévision. Je ne pouvais tout simplement pas me permettre de rester là, à m'exposer à ces choses qui me polluaient l'esprit tout en flattant mes aspirations charnelles, sans que cela s'infiltre de plus en plus dans mon cœur et dans mon esprit, jusqu'au point où j'aurais définitivement abandonné tout désir de lutter contre une telle influence néfaste. Non, dans mon for intérieur, je sentais bien que je ne voulais plus participer à ce genre de plaisir mondain, que je préférais être compté parmi ces pierres vivantes qui constituent le temple de Dieu. Oh, cette lutte interne ne fut pas aisée, mais je savais qu'il fallait l'emporter, que j'avais en fait été appelé pour l'emporter. Encore une fois, j'avoue que ce ne fut pas aisé, j'ai dû persévérer, car ces choses m'attiraient. Mais avec le temps, l'Esprit de Dieu aidant, Jésus-Christ en moi me soutenant, je finis par l'emporter. Évidemment, la vie allait me soumettre à quantité d'autres situations qui me forceraient à mener une lutte du même genre. Mais je me souviens particulièrement de celle-ci parce qu'elle marqua un tournant dans ma vie. Il nous faut donc nous distancer de ces choses qui nous rendraient impurs. Retenez donc que nous sommes supposés être le saint temple de Dieu. Avec cette idée en tête, revenons en arrière. À l'époque où l'on achevait la construction du temple physique de Salomon, il en est question dans 2 Chroniques, le chapitre 7. Salomon venait d'achever la dédicace du temple. Que faut-il entendre par achever la dédicace? Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, le temple était sanctifié et remis à Dieu en tant que sa propriété exclusive, pour qu'il soit entièrement à son service. Et on voit ici Dieu qui prend possession du temple et qui le sanctifie. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Notez que les sacrificateurs n'eurent pas à brûler l'holocauste et les sacrifices. En prenant possession du temple, Dieu considéra ce lieu comme étant saint. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous avez donc ce temple qui est rempli de la gloire de Dieu, à tel point que les sacrificateurs ne purent y entrer. La présence de Dieu le remplissait intégralement. Cela me fait penser à ceci. Si je suis moi-même le temple du Dieu vivant, si j'en fais partie, y aurait-il alors un petit endroit secret de ce temple que je pourrais considérer comme étant à moi? Pourrais-je me réserver cet endroit pour y placer ces petites impuretés auquel je tiens absolument? Ou encore, sans aller jusque-là, pourrais-je y mettre certains aspects de ma vie que je tiens à me réserver, sans me soucier de ce que Dieu pourrait en penser? Non, cela ne serait pas acceptable aux yeux de Dieu. C'est que, si nous tenons à être le temple de Dieu, alors Dieu doit pouvoir s'établir jusque dans les moindres recoins de notre vie. Si nous recherchons la sainteté, il ne saurait être question de laisser subsister la moindre parcelle d'impureté dans notre vie. Il nous faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, le laisser envahir notre vie totalement, en prendre possession en quelque sorte. Il nous faut nous pénétrer de lui, de sa loi, de tout ce qui le concerne, de l'exemple qu'il nous a laissé, de ses enseignements et de sa façon de vivre. Comme nous avons encore cet exemple du temple sous les yeux, allons voir Colossiens chapitre 3 et le verset 17. Colossiens chapitre 3 et le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est profond ce que Paul dit là. Cela mérite qu'on y réfléchisse. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, cela nous amène à penser et à analyser chacun de nos gestes, chacune de nos actions, chacune des paroles qui vont sortir de notre bouche. Pour mieux se faire comprendre, Il nous donne ensuite des exemples concrets. Ainsi, il va s'adresser aux femmes, aux maris, aux enfants, aux parents et même aux serviteurs, montrant à chacun ce que cela implique d'être saint, qu'il faut alors s'efforcer de dédier notre vie à Dieu, tout en accomplissant sa volonté à notre égard, en suivant les instructions qu'il donne à chacun de nous. Puis, au verset 23, il termine en nous faisant cette recommandation générale qui résume le fond de sa pensée. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. À nouveau, y a-t-il des domaines de notre vie que nous voulons soustraire à Dieu? Qu'en est-il, par exemple, de nos activités au travail? Nous connaissons la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais serons-nous parfois portés à faire des compromis sous prétexte que cela est pratique courante dans le monde des affaires? C'est une décision administrative ou une affaire légale, dira-t-on pour se justifier. Comprenez bien que toute chose que vous ferez, petite ou grande, devra dorénavant être considérée en gardant à l'esprit que vous représentez le temple de Dieu, et en tant que tel, toute votre vie devra être dédiée à Dieu et refléter sa sainteté. Cela affectera donc tous les choix que nous ferons, ce que nous consommerons, qui nous marierons, à quelles occupations nous nous livrerons et celles que nous éviterons. Rechercher la sainteté comprend tant de choses. De même que l'Israël d'antan se voyait prescrire toutes sortes de règles cérémonielles dans ses relations avec Dieu, de même nos rapports avec lui doivent aussi répondre à des critères bien définis. Tournons-nous maintenant vers 2 Corinthiens, le chapitre 10, et posons-nous la question: à quel point nos vies sont-elles dédiées à Dieu? À quel point poursuivons-nous la sainteté et nous efforçons-nous d'être le genre d'individu en qui Dieu pourrait établir sa demeure? C'est un réel défi, vous savez, le fait d'abriter en nous un Dieu saint comme l'Éternel. C'est pourquoi je prends au sérieux cette injonction qui nous est faite au sujet de toutes nos paroles et de toutes nos actions. Voyons donc ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est là un énoncé qui donne à réfléchir. Il ne s'agit donc pas seulement de contrôler nos actions et nos paroles. Il nous faut également contrôler toutes nos pensées. Voilà tout ce que cela implique, être un peuple saint pour l'Éternel. Cela implique beaucoup. Ceux qui prétendent que le cheminement chrétien ne requiert pas d'action de notre part resteraient bouche bée si on leur montrait des versets de ce type. Des versets où Dieu requiert même que nous maîtrisions jusqu'à nos pensées. Oui, même nos pensées doivent être offertes en sacrifice à Dieu, ce qui veut dire qu'elles devront être pures. Inutile de dire que cela est un défi de taille. Mais avant de céder au découragement, n'oubliez jamais que Dieu est prêt à nous aider en tout cela. Je vais tâcher de rendre cela très clair à la fin, mais avant, considérons un dernier point. Vous savez que certains versets font usage de mots particuliers. Même si nous ne pourrons nous référer à certains de ces versets par manque de temps, laissez-moi tout de même en parler. Il y a par exemple le mot « saint » qui apparaît dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 16, où il est dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Ce mot vient du grec « hagios ». Souvenez-vous-en. Par ailleurs, il y a cet autre mot que l'on rencontre dans la prière du Seigneur, donc dans Matthieu chapitre 6, et plus précisément au verset 9, un passage où Jésus-Christ nous dit d'adresser nos prières à son Père en disant « Que ton nom soit sanctifié ». Ici, le terme « sanctifié » vient du grec « hagiazo », qu'on emploie quand on veut considérer une chose comme étant sainte ou qu'on veut la sanctifier. Pourquoi parler de cela? Pourquoi faire mention de ces termes grecs ici? C'est parce que j'ai noté quelque chose de fascinant en préparant ce sermon. Si vous considérez par exemple les salutations qui figurent au début des lettres de Paul, vous constaterez qu'elles ont toutes une certaine similitude. Ainsi, au début de 1 Corinthiens chapitre 1, Paul parle des membres de l'église de Corinthe en faisant référence à ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Vous pourriez à présent consulter une Bible interlinéaire pour constater que le terme saint, qui apparaît ici, est tiré du grec hagios. C'est le même terme que Dieu applique à lui-même. C'est le terme que nous emploierons lorsque nous voudrons sanctifier le nom de Dieu. Le terme saint est intimement lié à la notion de sainteté. En fait, lorsque Dieu fait référence à nous en tant que des saints, il emploie un langage descriptif qui s'applique en réalité à lui. Il parle de nous comme étant ses saints, ceux qui ont été mis à part. Je ne sais pas ce que cela vous fait, mais personnellement, je suis conscient de l'ampleur des responsabilités que je porte maintenant sur les épaules, bien que je trouve excitant d'avoir le privilège de les porter. Les Israélites vivant à l'époque de l'Ancien Testament avaient dû apprendre à vivre en présence d'un Dieu saint. C'est ce que nous devons apprendre nous aussi. Cependant, en ce qui nous concerne, il y a quelque chose qui rend notre situation différente. En effet, Dieu ne fait pas que vivre parmi nous, comme c'était le cas pour les Israélites d'antan. Si vous pensez à la Pâque, cette Pâque que nous observions il y a quelques semaines, cela doit vous rappeler que Christ a sacrifié sa vie pour nous. Nous étions chargés de nos péchés et de nos impuretés. Nous étions séparés de Dieu. En fait, un gouffre infranchissable nous séparait de lui. C'est pourquoi Jésus-Christ prit des mesures pour nous permettre de franchir ce gouffre, et il le fit au prix de sa vie. Lui seul, le Fils de Dieu, pouvait payer la rançon de nos péchés, car sa vie valait plus que toutes nos vies réunies. C'est ainsi que nous avons pu franchir ce gouffre qui nous séparait de Dieu, ce qui nous permet à présent d'être réconciliés avec lui. Les jours des pains sans levain nous amènent à distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui ne l'est pas, et à faire alors le bon choix. Agir ainsi est vraiment notre seule réponse logique, bibliquement parlant, au sacrifice consenti par Jésus-Christ. Certes, il peut être intimidant pour nous, après que nous aurons considéré ce qui est saint et ce qui est pur, de devoir faire tous ces choix que Dieu veut nous voir faire à présent. C'est que le simple fait d'avoir été baptisé ne nous a pas soudainement rendus parfaits. Ce que je veux dire, c'est que le nouvel homme qui est sorti des eaux du baptême a certes maintenant une autre relation avec Dieu, mais les anciennes habitudes sont toujours là, et les tentations toujours aussi omniprésentes qu'avant. La différence, c'est que nous avons à présent dédié le reste de notre vie à Dieu, et que nous sommes bien déterminés à suivre dorénavant toutes les normes qu'il nous impose. Et c'est à ce stade que nous vient la promesse associée à la Pentecôte. Voyez-vous, nous ne sommes pas limités à devoir nous contenter d'un Dieu saint que nous admirons à distance, tout en étant conscients que ses attributs ne pénétreront nullement en nous, que sa pureté, que tout ce qui est si sublime en lui, sa sainteté, n'aura pas d'emprise sur nous. Non, notre Dieu ne va pas nous imposer des normes telles que les jours des pains sans levain nous le révèlent, tout en nous laissant nous débattre seuls avec ses défis, alors qu'il nous observera à distance. Ce que la Pentecôte ajoute à ce tableau, c'est que notre Dieu saint est maintenant disposé à s'impliquer directement dans nos vies. Autrement dit, Jésus-Christ est dorénavant désireux de venir en nous pour nous transformer de l'intérieur. Nous n'avons donc plus à faire le parcours seul, car il le fera avec nous, main dans la main, et en nous encourageant à toutes les étapes. Oui, alors que nous nous efforcerons de poursuivre la sainteté et que nous y consacrerons tous nos efforts afin de nous élever de plus en plus vers ce niveau de pureté de bonté et de justice qui caractérise notre Dieu, nous aurons quelqu'un qui sera en permanence à nos côtés pour nous apporter son support, notre grand frère Jésus-Christ. En ce jour de la Pentecôte, le thème le plus important sur lequel nous devrions méditer, c'est celui de la sainteté. Cela pourrait conduire à des frustrations, à moins que nous ne nous souvenions de cette vérité fondamentale que ce jour doit évoquer. Oui, nous devons poursuivre la sainteté, mais nous disposons pour cela de l'aide la plus efficace qui puisse se concevoir. Pas simplement une assistance à distance et périodique, mais une force qui vit et agit en nous, qui nous transforme et qui nous permettra d'achever cette œuvre à la suite d'un effort conjoint.